Chapitre 19. Holmes suivait son homme dans le train de l'après-midi allant de Washington à New York. Le détective était la parfaite image du petit fonctionnaire ou employé de bureau mal payé. Costume tout juste présentable, chaussures cirées mais aux semelles usées, Hamburg brossé quoique lustré, vieille serviette bourrée à craquer de dossiers, papiers et crayons. Des boucles rousses indisciplinées s'échappaient de sous le couvre-chef et des favoris roux, appelés sideburns par les Américains depuis qu'un général de la guerre de sécession nommé Burnside les avait popularisés, descendaient presque jusqu'aux commissures de ses lèvres. Des dents de lapin jaunes et cariées, les gens ayant tendance à détourner le regard des visages aux dents proéminentes et mal soignées, et des joues rouges, non pas sous le coup de la chaleur ou de l'émotion, mais à cause de ce qui ressemblait à des lésions cutanées permanentes et malsaines. Une raison supplémentaire de ne pas le regarder de trop près. Ce fonctionnaire ou employé lisait le journal de la mi-journée de Washington. Si la cible de Holmes s'était retournée à l'autre bout du wagon, elle n'aurait vu que le journal levé. Holmes n'était pas ravi de passer son lundi après-midi à suivre cet homme jusqu'à New York, mais il n'aurait sans doute pas d'autre occasion de le faire. Une toile d'araignée complexe entourait la mort de Clover Adams. Avant de pouvoir la pénétrer, le détective allait devoir suivre différents fils, au moins ceux des proches amis de Clover, pour voir où il menait. Celui-ci ne le conduirait peut-être nulle part, et Holmes aurait préféré passer l'après-midi à classer les années de correspondance que Hay lui avait promis. Il lui fallait aussi s'introduire dans l'hôtel particulier de Henry Adams, voisin de celui des Hay. Cela devrait attendre jusqu'au lendemain soir, mardi. Clara Hay lui avait dit que les domestiques d'Adams, qui avaient eu droit à quelques jours de congé pendant l'absence prolongée de leur employeur, rentreraient mercredi après-midi le 29 mars pour commencer à ouvrir et aérer la maison en prévision du retour d'Adams le vendredi. Pour la filature, c'était donc maintenant ou jamais. Holmes jeta un coup d'œil par-dessus son journal, aux épaules larges et aux cheveux blonds coupés courts. Il devait se tenir prêt à réagir au cas où sa cible descendrait brusquement du train à l'un des nombreux arrêts sur cette ligne. Et cela tout en paraissant décontracté. Après presque 2 années loin de Londres, la ville lui manquait. Son appartement du 221B Baker Street lui manquait également, ainsi que Madame Hudson et même Watson, mais il se languissait surtout de la cité. Autrefois, pour se préparer à son futur métier de détective privé, Holmes avait passé 1 an à conduire un cab londonien. Il se flattait de connaître chaque rue, chaque boulevard, chaque voie et chaque ruelle. Plus encore, il s'était fixé pour objectif de mémoriser tous les commerces, fabriques, entrepôts et toutes les maisons de ville, une tâche herculéenne rendue presque impossible par le fait que depuis les années 1870, le vieux Londres avait été éventré et démoli, puis rebâti avec une hâte fiévreuse qui n'avait saisi aucune autre cité du monde. Des entreprises sises à la même adresse pendant plus 1 siècle et demi se retrouvaient soudain en faillite ou contraintes de déménager dans des faubourgs moins favorisés à cause de la flambée des loyers dans des quartiers devenus à la mode. Plus important, Holmes connaissait les itinéraires de tous les trains circulant en Angleterre. Watson et lui avaient tous deux usé leur exemplaire respectif du Bradshaw's Guide. Mycroft Holmes, lui, avait mémorisé le sien, au point de pouvoir donner les horaires de tous les trains du pays à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. De l'esbrouf aux yeux de Sherlock Holmes, d'autant plus triste que son grand frère n'allait jamais nulle part. Mais au moins, en Angleterre, Holmes avait toujours son Bradshaw à couverture jaune dans sa poche ou son bagage. Ici, en Amérique, il n'avait pas trouvé de guide comparable. Seulement des horaires non fiables concernant telle ou telle compagnie de chemin de fer. Il pouvait seulement espérer que le train dans lequel il se trouvait allait bien à New York. Tandis qu'il roulait vers le nord en brinque-ballant, Holmes pensa à Henry Adams, Clover Adams, Clarence King, John Hay et Clara Hay. Tous possédaient des secrets en lien avec l'enquête, même Clover. Les morts, il le savait, se cramponnaient à leurs secrets dans la tombe, mais pas aussi fort que les vivants. Il était conscient que Henry James connaissait Clover Adams depuis très longtemps, avant même son mariage avec Henry Adams. Et il avait rencontré peu d'hommes, dans la vie et au fil de sa carrière, qui préservaient aussi jalousement leurs secrets que lui. Pourtant, il connaissait déjà celui que James n'aurait révélé pour rien au monde. Il n'en avait pas discuté, bien sûr, mais le détective et l'écrivain étaient tous deux célibataires. Holmes avait renoncé à toute vie sentimentale et sexuelle afin de consacrer tout son temps et toute son énergie à sa carrière. Si on avait interrogé James, il aurait certainement répondu la même chose. Il avait d'ailleurs écrit que, étant désormais un vieux célibataire, il ne connaîtrait d'autre mariage que celui qui l'unissait à son art. Mais Holmes savait qu'il y avait autre chose. Il avait remarqué pendant leur traversée de l'Atlantique, sur le bateau où voyageaient de nombreux jeunes gens et jeunes femmes, qui se promenaient souvent sur le pont en se tenant par le bras, des hommes avec des hommes et des femmes ensemble. Holmes ignorait si James jouait au whist, au poker, au bridge ou à tout autre jeu de cartes où la dissimulation était essentielle. Mais il savait que l'impassibilité de l'écrivain y aurait été un atout. L'homme ne montrait que peu de réactions, même devant des affirmations ou révélations surprenantes. Un jour, cependant, sans savoir que Holmes l'observait, Henry James avait posé les yeux une seconde sur deux jeunes gens qui riaient, insouciants, en marchant bras dessus, bras dessous sur le pont, de cette manière si décontractée des Américains. Holmes avait alors surpris les réactions complexes que trahissait le regard de l'écrivain. Jalousie, nostalgie, convoitise et une vague fringale. Pas une fringale sexuelle à proprement parler, avait songé Holmes, mais une émotion indéniable. Holmes n'avait cure de ce secret de James, le plus profond avec la honte cachée que lui causait sa santé, ses douleurs au dos, ainsi que sa relation avec son frère aîné William. D'autant qu'il n'avait pas de conséquences directes sur l'affaire ayant amené le détective en Amérique, ni sur l'étrange petite enquête sur la mort de Clover Adams. Après de trop nombreux arrêts en banlieue, le train de Washington finit par entrer dans Grand Central Depot à New York, au croisement entre la 42e rue et Park Avenue. Cet édifice victorien de 3 étages n'était pas encore l'imposante gare de 6 étages du nom de Grand Central Station que Holmes et James verraient après le tournant du siècle, et encore moins le Grand Central Terminal qui se dresserait au même endroit à partir de 1913. Ce Grand Central Depot était un bâtiment hétérogène dont la forme évoquait irrésistiblement un gâteau de mariage. Des portails sombres ouvraient sur des rails permettant à quelques tramways tirés par des chevaux de poursuivre leur route vers le centre de Manhattan, tandis que des pancartes géantes indiquaient les lignes de New York et Harlem, New York et New Haven et New York et Hudson River. L'homme que suivait Holmes, manifestement familier du labyrinthe des correspondances, sauta du train à l'arrêt, monta des escaliers, traversa un hall bondé et, une fois encore, courut pour attraper un tram tiré par un cheval à destination de Park Avenue. Holmes n'eut d'autre choix que de s'élancer, ses roues flaquettes s'agitant dans sa course, tandis qu'il retenait fermement son homburg d'une main, et de grimper dans le tram à la dernière seconde. Si sa proie s'était retournée, elle n'aurait pas manqué de le repérer. Mais Holmes vit que l'homme s'était déjà assis à une place devant et ne prêtait attention à rien d'autre qu'au journal qu'il venait d'ouvrir. Holmes savait que l'homme appartenait à plusieurs clubs sélects, pour des clubs américains, dont 2 où il disposait d'une chambre, l'Union Club, au croisement entre la 69e rue et Park Avenue, et le Century Club au 42 de la 15e rue Est. Il conservait aussi en permanence une chambre à l'hôtel Brunswick, à Madison Square, à l'angle de la 5e avenue et de la 25e rue. Le détective devina que l'Union Club n'était pas la destination immédiate de sa cible, puisque le tram continua vers le sud sur Park Avenue. D'après l'itinéraire suivi, il n'allait pas non plus au Century Club. Si l'homme qu'il suivait se dirigeait vers l'hôtel Brunswick, il devrait descendre du tram pas plus loin que la 25e rue, puisque le Brunswick se situait à 300 mètres à l'est. Mais l'homme, le dos un peu voûté et semblant perdu dans l'édition de l'après-midi du journal de New York, qu'il avait pris à la gare, laissa passer les arrêts des 25e et 23e rues. À Union Square, le tram évita l'embranchement vers Broadway et suivit la 4e avenue sur environ 800 mètres jusqu'à Lafayette Street. L'homme ne montra aucune volonté de descendre sur cette portion du trajet. Mais quand Lafayette Street devint Centre Street et que City Hall apparut, il se leva et se tint sur le marchepied prêt à sauter. Holmes laissa les chevaux parcourir 100 mètres supplémentaires avant de descendre à son tour et de rebrousser chemin dans la foule de piétons sans jamais perdre de vue la tête et les épaules de sa cible. Il comprit alors quelle était leur destination et en fut un peu surpris. Il s'était imaginé que s'il traversait l'East River, ce serait sur l'un des ferries. Il se réjouit que ce ne fût pas le cas. Il était venu plusieurs fois à New York depuis la construction du pont de Brooklyn, une décennie plus tôt, mais il n'avait jamais eu l'occasion ni de raison de l'emprunter. Il regarda son homme payer son passage à la guérite en fer forgé et gravir le large escalier jusqu'au quai. 6 têtes derrière lui dans la file, Holmes régla ses 5 cents et monta à son tour. Les trains traversaient le pont au milieu de la travée, entre les voies réservées aux voitures et aux autres véhicules, tandis que les piétons disposaient d'une passerelle au-dessus. Sachant qu'il ne s'arrêterait pas sur le pont, Holmes put s'asseoir et se détendre à l'arrière du wagon dans lequel était montée sa cible. Même s'il lui tournait le dos, il voyait des reflets de l'avant du wagon dans les vitres. Holmes nota pour mémoire, bien qu'il doutât de devoir un jour traiter une affaire concernant la circulation sur le pont de Brooklyn, que les trains ressemblaient beaucoup aux plus récentes et luxueuses rames des lignes ferroviaires aériennes de New York. Doubles portes coulissantes s'ouvrant sur des plateformes décorées de barrières en fer forgé, confortables rangées de sièges et grandes fenêtres. Les New-Yorkais et les habitants de Brooklyn étaient habitués au fait qu'aucun moteur ne poussait ou tirait les trains, mais il arrivait encore à des touristes de s'exclamer quand la rame quittait lentement la station comme par magie. Holmes savait que sous les rails se trouvait un câble de traction en acier en mouvement permanent auquel les trains s'accrochaient pour se mouvoir. San Francisco possédait un réseau beaucoup plus élaboré de cable cars et les rampes y étaient beaucoup plus abruptes. Mais même ici, on sentait la voiture gravir la pente de la superstructure. Sherlock Holmes n'était pas homme à s'extasier plus que nécessaire sur les œuvres de la nature ou celles de l'homme. Il trouvait les premières sans incident sur son travail, les dernières trop fugaces au regard de l'étendue du temps. Holmes avait étudié son Darwin quand il était jeune. Il en gardait le sentiment que quiconque, lui compris, avait sa place dans le monde puis la perdait en un clin d'œil, mais aussi que même les pyramides et autres grandes œuvres étaient aussi éphémères qu'un château de sable sur la plage de Brighton. De sorte que les cathédrales et autres monuments de n'importe quelle époque ne le touchaient pas, à quelques exceptions près, comme le London Bridge ou Big Ben, bien qu'il eût plus entendu ce dernier qu'il ne l'eût vu à travers le fog. Ils étaient des repères dans la cité où il travaillait et qu'il aimait, à sa manière strictement contrôlée. Mais en levant les yeux, Holmes dut admettre que les tours en pierre du pont de Brooklyn étaient saisissantes. Pendant de nombreuses décennies, la plus haute structure new-yorkaise avait été la flèche de Trinity Church, culminant à 86 mètres. Elle avait été dépassée 3 ans plus tôt par le World Building, au croisement entre Park Row et Franklin Street, haut de 94 mètres. Et bien que l'arche de pierre de la tour que le train était en train de traverser ne mesurât que 35 mètres, que la tour elle-même ne s'élevât que de 48 mètres au-dessus des chaussées et des rails, de 84 mètres au-dessus de l'East River, la seule force de ces tours de pierre gothiques impressionnèrent le pourtant peu impressionnable Holmes. Le détective savait que se rappeler ces chiffres précis n'était qu'un gâchis de son précieux espace cérébral. La hauteur des arches, des tours et des voies de circulation de ce pont ne l'aiderait sûrement jamais dans une enquête. Mais il avait vu ces informations au cours d'une de ses nombreuses nuits d'insomnie, passées à lire l'un des 25 volumes de la dernière édition de l'Encyclopédia Britannica, la 9e, datant de 1889. Pour Watson, cet achat n'était qu'un gaspillage ridicule, puisque Holmes possédait déjà les 6e et 8e éditions, mais le détective chérissait cette nouvelle version. Malheureusement, et bien que ce fût son frère Mycroft qui possédait des capacités mathématiques hors du commun, quand Sherlock Holmes se retrouvait face à des nombres, il lui était impossible de les oublier. Ce pont en apparence miraculeux, soutenu par des câbles descendant de 2 tours de pierre s'élevant à 84 mètres au-dessus de l'East River. L'Amérique a des rêves immenses, songea-t-il, non pour la première fois, et il n'est pas rare qu'elle ait les moyens de les réaliser. Le wagon descendit la pente après la 2e tour et ralentit en approchant du terminal de Brooklyn, architecture en fer peint encore plus élaborée que celle érigée côté New York. Holmes redescendit dans la rue derrière son homme, puis grimpa à sa suite dans un tram tiré par des chevaux. La filature se poursuivit ensuite à pied sur une centaine de mètres, alors que sa cible marchait vers le sud-est, sur les pavés irréguliers de la voie prolongeant Flatbush Avenue. À aucun moment l'homme ne regarda par-dessus son épaule ou ne s'arrêta devant une vitrine pour s'assurer dans le reflet qu'il n'était pas suivi. D'après ce que Holmes en savait vaguement, Brooklyn était jadis une ville prospère et prétentieuse, sauf dans les quartiers noirs et irlandais le long du détroit au nord, aux larges avenues arborées bordées de majestueuses demeures. Le quartier dans lequel il se trouvait à présent, pas si éloigné de la zone où tant de vieux bâtiments avaient été démolis pour permettre l'accès au pont, n'était pourtant guère majestueux. Des maisons d'apparence bourgeoise, aux bardages peints en rose, vermante, bleu vert, orange ou autres couleurs en vogue, côtoyaient des bicoques délabrées que leurs habitants avaient renoncé à entretenir ou réparer. Ce fut devant l'une des plus jolies maisons de Hudson Street que l'homme s'arrêta. Il monta les 4 marches du perron, ouvrit la porte, cria quelque chose que Holmes n'entendit pas de là où il se trouvait, à 100 mètres de distance, et disparut aussitôt sous les embrassades de 2 petites filles et d'une femme portant un bébé dans les bras. Les filles, le bébé et la femme étaient noires, la femme surtout avait une peau d'ébène. Les fillettes, vêtues de robes blanches, avaient le teint plus clair et les cheveux frisés, tressés et attachés par des rubans. Nul doute qu'il s'agissait d'affectueuses retrouvailles familiales. Holmes en fut quelque peu surpris. L'homme qui l'avait suivi toute la journée était blanc.
Oui, ils ont 3 enfants. Les 2 aînés sont des filles, dit Madame Baines, à qui il manquait une dent de devant.
Le petit dernier est un garçon. Ils en ont eu un autre, leur premier enfant, mais il est mort, dit Madame Youngfield, une femme d'un certain âge aux cheveux gris.
Il se trouvait chez elle à Hudson Street, dans la maison d'en face.
Il s'appelait Leroy, celui qui est mort.
Holmes avait retiré perruque, rouflaquette et dents proéminentes et séparé ses cheveux en une raie au milieu sans lésiner sur la crème capillaire. Il portait à présent des lunettes aux verres épais, mais sans monture. 7 crayons dépassaient de la poche gauche de sa veste. Il avait sorti de sa serviette un très grand registre rempli de ce qui ressemblait à des formulaires officiels. Il était tard et il avait frappé à plusieurs portes sans obtenir de réponse, un homme blanc dans un quartier manifestement noir, mais Madame Youngfield et sa visiteuse et amie du bout de la rue, Madame Baines, avaient jeté un coup d'œil par les fenêtres jouxtant la porte et décidé que le visiteur à l'aspect collet monté n'était pas menaçant. Elle n'avait manifesté aucun intérêt quand Holmes, se présentant sous le nom de Monsieur Williams, avait expliqué qu'il effectuait un recensement local afin que l'association de bienfaisance de Brooklyn puisse améliorer les parcs et les équipements du quartier, mais s'était montré plus aimable lorsqu'il avait sorti les 2 dollars qu'il se proposait de leur donner à chacune si elles acceptaient de consacrer un peu de temps à répondre à ces questions sur leurs voisins.
« Et le nom de la famille est Todd ?» dit Holmes, plissant les lèvres en faisant mine de déchiffrer son formulaire compliqué rempli de cases et de lignes dactylographiées.
« C'est ça !» répondit Madame Youngfield. « James et Ada Todd, vous voulez aussi le nom des enfants ?»«
Je ne crois pas que ce soit nécessaire, » répondit Holmes. « Mais je note qu'il y a 2 fillettes et 1 bébé dans ce foyer. »«
Et un autre en route, » précisa Madame Baines. « Adam a dit que leur vieille maison serait bientôt trop petite pour eux. Connaîtriez-vous leur âge ?»«
Les âges approximatifs suffiront. »
Holmes parlait avec un petit zézément sifflant entre ses lèvres serrées. Il était un fonctionnaire de l'État qui aimait être un fonctionnaire de l'État. Une accusation qu'il avait un jour lancée sous forme de pique à son frère Mycroft, qui avait répliqué aussitôt de sa voix lente et imperturbable « Mais mon frère, je ne travaille pas pour le gouvernement britannique. Parfois, je suis le gouvernement britannique. »
« Monsieur Todd a environ 51 ou 52 ans. Ada aura 32 ans le 9 avril prochain, »
dit Madame Youngfield.
Holmes ne fit aucun commentaire sur cette différence d'âge. Il l'avait vu de ses propres yeux dans la lumière déclinante du soir.
« Et sauriez-vous quand ils se sont mariés ?»
s'enquit Holmes de sa voix sifflante. « Encore une ligne à remplir, encore une case à cocher. »
« En quoi la date du mariage d'un couple légitime peut-elle bien regarder l'association de je ne sais quoi de Brooklyn ?»
demanda Madame Baines. Elle avait les poings serrés, plantés sur les hanches.
« Le 22 septembre 1888, »
dit Madame Youngfield. Madame Baines se tourna vers son amie en écarquillant les yeux.
« Mais là, comment tu sais ça? La date exacte du mariage d'Ada? Moi, j'arrive même pas à me souvenir de mon anniversaire. »«
Je n'oublie jamais les chiffres et les dates, » répondit Madame Youngfield.
« Toti, ton anniversaire, c'est le 14 décembre. Mais peu importe, puisque Henri s'est fait la malle il y a 4 ans. »
Madame Baines détourna le regard et tapa du pied.
« Ada m'a raconté que James et elle s'étaient mariés à New York. » « Chez sa tante, sur la 24e rue Ouest, »
reprit Madame Youngfield à l'intention de Holmes, qui griffonna en hâte.
« Elle m'a expliqué qu'ils avaient fait venir un pasteur méthodiste noir d'une église de la 85e rue, qu'il y avait un orgue et un gâteau avec un glaçage blanc. »
Madame Baines fusillait son ami du regard, mais ne pipait mot.
« Nous en avons presque fini, » assura Holmes. « La profession de Monsieur James Todd, il travaille pour la compagnie du gaz ?»
« Non, vous êtes mal renseigné !»
dit Madame Baines en riant.
« Le mari d'Ada est employé des chemins de fer, originaire de Baltimore. Il est porteur en chef. Il travaille pour la New York Central Railroad, mais... pauvre Ada, la compagnie n'arrête pas d'envoyer son bonhomme partout. En Pennsylvanie, dans le Michigan, l'Ohio, l'Illinois, le Massachusetts, et même jusqu'au Canada.
Dans l'Ontario et au Québec !»
précisa Madame Youngfield.
« Peu importe, il est très souvent absent !»
ajouta Madame Baines, manifestement agacée par la quantité d'informations dont disposait son amie et voisine.
Ada se retrouve seule à la maison et enceinte à devoir s'occuper des 2 gamines et du bébé. Cet homme gagne peut-être bien sa vie comme porteur en chef, mais il n'est pas à la maison 2 jours sur 50.
Je ne vais pas abuser de votre temps plus longtemps, mesdames,
dit Holmes, rangeant son registre et rajustant ses lunettes sur son nez.
Vous avez été d'une aide précieuse. « Grâce aux informations que vous avez fournies sur les Todd et d'autres voisins, L'association de bienfaisance de Brooklyn pourrait bien financer une aire de jeu près d'ici.
Les enfants ont plein de terrains vagues pour jouer,
dit Madame Baines.
Ce qui nous serait utile, ce serait un beau saloon, propre et respectable, comme celui qu'il y avait à Flatbush Avenue, avant que tout soit démoli à cause du pont.
Oh, tais-toi, Totty!
La réprimanda Madame Youngfield, regardant Holmes droit dans les yeux, elle ajouta.
Elle n'est pas sérieuse, Monsieur Williams.
Holmes hocha la tête, leva son chapeau, descendit les marches du perron, fit mine de se détourner pour partir, puis se ravisa.
Pardonnez-moi si la question est indélicate. Elle est censée faire partie du recensement du voisinage, mais je dois rarement la poser.
Les deux femmes attendirent.
Il se trouve que j'ai eu par hasard l'occasion de voir M. James Todd, sans avoir eu le plaisir de faire sa connaissance,
dit doucement Holmes, montrant des signes de gêne.
Ce monsieur a les yeux bleus, les cheveux blonds, clairsemés, certes, mais blonds, et un teint très pâle.
Madame Baines rit de bon cœur.
Il vous a donc dupé, vous aussi.
L'espace de la dent manquante était encore plus visible dans son grand sourire étincelant.
Dupé, commença Holmes. James Todd est un passe-blanc,
dit Madame Youngfield. Elle aussi paraissait embarrassée.
Ah oui,
dit Madame Baines en riant toujours.
James Todd, c'est un très bon passe-blanc.
Un passe-blanc, demanda Holmes. Vous voulez dire qu'il se fait passer pour...
Blanc,
confirma Madame Youngfield.
James Todd n'a pas l'air noir, mais sa femme nous a répété des dizaines de fois que son grand-père et sa grand-mère étaient esclaves dans une plantation de Caroline. Il y a eu pas mal de métissage dans ces plantations, et beaucoup de ces enfants métis sont des passe-blancs, même s'ils ne sont pas nombreux à être aussi clairs que James Todd. Au moins, il s'est marié parmi les siens,
conclut Madame Baines. Holmes inclina son chapeau une dernière fois.
Merci encore, mesdames.
La fatigue s'abattit sur Holmes dans le train du soir qui le ramenait à Washington. La journée du lendemain serait pourtant chargée. Avant la fin de l'après-midi, il aurait découvert l'identité de celui ou celle qui envoyait tous les ans les cartes Bristol disant « Elle a été assassinée ». Puis il lui faudrait encore s'introduire dans l'hôtel particulier de Henry Adams après la nuit tombée, une opération délicate dans un quartier aussi chic et surveillé que celui où les Hay et les Adams avaient élu domicile. Il connaissait à présent le secret d'un des cinq de cœur. Monsieur Clarence King, le célibataire le plus convoité d'Amérique, selon les dires de son ami John Hay et d'un éditorialiste du Century Magazine, était marié à une femme de couleur nommée Ada Copeland depuis septembre 1888. Et il ne faisait aucun doute, du moins d'après les voisines, qu'il était le père des deux fillettes, du bébé, du garçon décédé prénommé Leroy et de l'enfant à naître. Découvrir un tel secret n'était qu'un début. Holmes avait encore bien des mystères à éclaircir dans la vie de John et Clara Hay, de Henry Adams et même de Clover Adams. Tout homme et toute femme vivant, Holmes le savait, possédait des secrets. La plupart, comme Clarence King, qui trompait délibérément ses meilleurs amis en prétendant n'être attiré que par les beautés des mers du Sud, avaient des secrets à l'intérieur de leurs secrets. Et les secrets de quelques-uns, comme Henry James et Holmes lui-même, avaient des allures de poupées russes. L'un des petits secrets de Holmes s'était manifesté avant que le détective quitte Brooklyn. Trop d'heures avaient passé depuis sa prise de drogue au petit matin, et avant d'embarquer sur un ferry pour traverser le détroit et retourner à Grand Central Depot, il trouva un abri vide où il put préparer sa petite solution d'héroïne et se l'injecter en toute discrétion. Il avait souffert tant physiquement que psychologiquement pendant tout l'après-midi, et le soulagement ressenti après l'injection avait été providentiel. Holmes ferma les yeux et s'assoupit, alors que le train fila vers le sud dans l'obscurité.